Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
Le film que vous allez voir raconte la tragédie vécue par un groupe de 5 jeunes, en particulier par Sally Hardesty et par Frankie, son jeune frère handicapé. Cette affaire est d'autant plus tragique qu'ils étaient jeunes. Mais même s'ils avaient vécu très longtemps, jamais ils ne se seraient attendus ni n'auraient souhaité assister à une débauche de folie aussi macabre. Leur balade entre amis par cet idyllique après-midi d'été se transforma en cauchemar. Les événements de cette journée devait mener à la découverte de l'un des crimes les plus bizarres des annales de l'histoire des États-Unis, connu sous le nom de massacre à la tronçonneuse.
Au sommaire aujourd'hui, un voyage dans l'univers de la saga Massacre à la tronçonneuse, en compagnie de Julien Sévéon, auteur de Massacre à la tronçonneuse 1974-2017, une odyssée horrifique, paru chez Cinexploitation. Vous pourrez entendre également le regretté Toby Hooper, réalisateur des deux premiers volets de la série, Maxime Lachaud, auteur de Redneck Movies, Ruralité et Dégénérescence dans le cinéma américain, paru chez Rouge Profond, nos chroniqueurs habituels et habitués John Ferret, libraire de son état, et Thomas Roland, critique de cinéma et tant d'autres choses à la fois. The remains of a badly decomposed body wired to a large monument. A second body was found in a ditch near the perimeter of the cemetery. Subsequent investigation has revealed at least a dozen empty crypts, and it's feared more will turn up as the probe continues. Deputies report that in some instances only parts of a corpse had been removed: the head or in some cases the extremities removed, the remainder of the corpse left intact. Evidence indicates the robberies have occurred over a period of time. Sheriff Jesus Maldonado refused to give details in the Gulish case and said only that he did have strong evidence linking the crime to elements outside the state.
Tu écris qu'à l'annonce du Lizard Face d'Alexandre Bustillo et Julien Maury, pour toi, t'es apparu comme une évidence d'écrire un livre sur la série des massacres à la tronçonneuse. Pourquoi ça t'a paru une évidence, en fait ?
Disons que j'avais déjà commencé à écrire pour un projet différent sur le premier massacre. Et là, ce film, je me suis dit, il y a absolument rien qui a été écrit sur toute la franchise. Donc avec le film de Bustillo et Maurice, ça allait en faire 8. Et je me disais qu'il y avait quand même quelque chose à faire là en termes de récit autour d'une franchise clé dans l'histoire du cinéma. Pas horrifique d'ailleurs, du cinéma tout court. Et d'un autre côté, il y avait quelque chose qui me semblait aussi très intéressant, c'était la façon, la possibilité de raconter comment le cinéma d'horreur s'était développé du début des années 70 à maintenant. Et chaque film, effectivement, représentant une époque particulière, des tendances particulières au sein de la production horrifique américaine. Et voilà, donc je me suis dit que c'était vraiment c'était l'occasion de faire ça.
Le premier tome est consacré au premier, au premier film de la saga, hein, le classique de Toby Hooper. Quelle place tient ce film, toi, dans ton panthéon cinéphilique ?
Oh bah, ça fait partie de mes films, des films clés de ma cinéphagie, on va dire. C'est un film que j'ai découvert assez tardivement par rapport, c'est assez marrant parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de lecteurs quoi depuis un petit moment. Je vois beaucoup l'ont découvert très tôt, aux alentours de 10-12 ans. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert un peu plus tard. Mais c'est un film qui s'est rapidement imposé comme essentiel pour de nombreuses raisons. Des raisons très simples, déjà bon, par les qualités intrinsèques du film, mais aussi par tout ce qu'il représentait. C'est-à-dire le cinéma indépendant, l'aspect do it yourself, qui est quelque chose pour moi très, très, très important. Le contexte de création du film, c'est-à-dire tout le milieu dans lequel tous les techniciens, les acteurs avaient évolué avant de faire ce film. Bah, tout ça, ça a fait que Massacre, voilà, c'est un film comparé à d'autres productions, on va dire d'horreur ou d'épouvante auxquelles je suis très attaché. Il y a quelque chose en plus du côté de Massacre à tronçonneuse pour, voilà, aussi bien devant que derrière, les faits concrets de qualité du film, que tout le processus de création, les gens qui étaient impliqués dedans. Voilà, c'est un film qui me touche de manière extrêmement différente.
Massacre à tronçonneuse, c'est cette affiche qu'on voyait
Thomas Roland
dans les rues de Paris quand on était petit, avec cette affiche qu'on voyait dans les rues de Paris, aussi sur les jaquettes René Château Vidéo, une affiche assez crado quoi, quelque part assez sordide, et avec cette réputation qu'il avait, le film c'est vrai, on croyait qu'il était très gore, très très violent, très 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 sanglant, etc. En fait, moi, je l'ai découvert un soir, je l'avais enregistré sur Canal+, et je l'ai découvert en mangeant un plat de lasagne surgelé. Et j'ai découvert un film beaucoup plus malsain que vraiment violent, quoi. Et ça m'a... Bah oui, ça, sur le coup, c'est choquant, quoi. Et en le revoyant, le film, on se dit, mais c'est quand même un film de dingue. C'est quand même un film extrêmement malsain. Et je ne vois pas trop d'équivalent, encore aujourd'hui, de films aussi malsains, avec une ambiance aussi, aussi travaillée, aussi sordide, et pourtant il y a des éclairs de violence, et ce qui rend très mal à l'aise, c'est que le film, on se dit, c'est plausible. Des gens comme ça, ça peut exister, ça existe.
Tu parles de cette production cinéma hors Hollywood, en vérité, qui est quelque chose qu'on aborde en fait assez rarement. Quel est l'état un peu de cette production lors de la sortie du premier film de Toby, enfin du premier Massacre à la tronçonneuse, donc de Toby Hooper, et quel est l'état de cette production aujourd'hui? On a l'impression qu'elle est moins, en tout cas il en sort moins de films majeurs, on a l'impression aujourd'hui.
Alors à l'époque, au niveau du Texas, il n'y a pas du tout de production locale.
Julien Cévé.
Il y a un réalisateur qui tourne quelques trucs du côté de Dallas, à Austin, donc d'où est issue toute l'équipe de Massacre, il n'y a absolument rien. Et en fait, depuis la fin des années 60, et en particulier la sortie de La Nuit des Morts Vivants, il va y avoir une espèce de boom créatif du côté de toute cette production régionale aux États-Unis. Et il va y avoir énormément de jeunes cinéastes qui vont émerger de coins totalement, totalement inédits, avant qui n'étaient pas du tout sur la carte du cinéma américain. Et il va... À mes yeux, c'est vraiment de ce côté, du côté de la production régionale, qu'on va avoir certaines des plus belles créations du cinéma américain des années 60 et 70. C'est pas pour diminuer ce qui s'est fait du côté d'Hollywood, parce que c'est vrai que pour Hollywood, c'est aussi une période très riche, qui a vu émerger de nombreux classiques, y compris dans le cinéma de genre. Mais il y a un souffle, un vent créatif qu'on voit venir de... Voilà, du Texas, du Kentucky, de nombreuses régions comme ça qui jusqu'alors n'était pas du tout, n'existait pas en termes cinématographiques, qui est à la fois revigorant, qui va d'ailleurs inspirer le cinéma hollywoodien, parce que on va voir pas mal de films comme ça, aussi bien des comédies que des films d'horreur ou des polars, qui vont faire des énormes succès au box-office et qui vont amener les producteurs et les réalisateurs à Hollywood à se questionner et d'une certaine façon aussi à aborder d'une manière un petit peu différente le cinéma, à nouveau.
Et aujourd'hui, cette production, elle est dans quel état ?
Écoute, pour rester dans le cadre du Texas, c'est Massacre à la tronçonneuse, ça a été un film essentiel dans le développement de cette industrie cinématographique texane, et en particulier Austin Heat. Avant Austin, c'était vraiment le no man's land absolu, et depuis, il y a eu Robert Rodriguez qui s'est installé à Austin, il y a des films comme Slacker qui ont été faits à Austin. Il y a eu tout un petit courant qui s'est développé à partir de là. Et Austin maintenant fait partie des plaques tournantes de la création cinématographique aux États-Unis. Alors évidemment, pas au point de concurrencer Hollywood. Hollywood restera toujours Hollywood, mais c'est une ville sur laquelle les producteurs hollywoodiens se sont tournés régulièrement pour aller tourner leurs films, non pas en apportant leurs propres techniciens, mais en allant chercher les techniciens sur place aussi, ce qui était quelque chose d'inimaginable il y a de ça 50 ans par exemple. Donc il y a cette production régionale est rentrée beaucoup plus dans les mœurs. Elle a peut-être perdu un petit peu de son dynamisme par rapport à ce qu'il y avait dans les années 60, 70 et début des années 80, mais en tout cas, on peut le voir régulièrement, notamment lors du festival du film indépendant aux États-Unis. Il y a encore beaucoup de réalisateurs qui essayent de percer ou de moins de créer en dehors d'Hollywood.
vous écoutez Culture Prohibée, spécial massacre à la tronçonneuse. On voit Hickshell, en fait.
John Ferret.
On voit déjà les prémices de ce que va être Massacre à la tronçonneuse. C'est-à-dire qu'on a ces hippies, on a toujours cette forme ronde qui est reprise par la lune. Et Hickshell va être vraiment, si j'ose dire, le starter de Massacre à la tronçonneuse. Alors après Massacre à la tronçonneuse, on connaît à peu près tous l'histoire. On va juste la rappeler assez rapidement. L'idée est venue à Toby Hooper, en fait, qui était dans un grand magasin pendant les périodes de Noël. Il voulait absolument sortir et il se trouait dans le rayon quincaillerie et lui est venue l'idée de prendre une tronçonneuse et de se frayer un chemin par rapport à ces gens-là. Et en rentrant chez lui, eh bien, il a commencé à écrire sur cette base-là. Donc il y a tout ce scénario qui a commencé à se mettre en fait dans sa tête. L'expérience avec Hickshell lui a apporté pas mal de choses. Ils ont commencé à chercher des fonds pour pouvoir faire le film. Juste en aparté, le film... Les quatre premiers jours, rien que sur le Texas, ça avait déjà rapporté $600,000, alors que le film, à la base, a coûté $100,000. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, il y a eu des conditions de tournage qui ont été aussi assez exceptionnelles. On le retrouvera ça dans les interviews qui vont ponctuer cette émission, où Toby Hooper rappelle que lui voulait vraiment créer des clans dans les comédiens, les pousser jusqu'à bout de ce qu'ils pouvaient faire. Il y avait aussi des conditions de tournage assez incroyables, parce que dans la maison... les animaux morts sont, me semble-t-il, des vrais animaux. Les plumes, les coquets, tout ça sont réels. Hein. C'est pas du trucage, tout ça. Il y avait une chaleur écrasante aussi, donc ça a laissé des conditions de tournage qui ont servi le film, vraiment, qui ont servi le film.
D'ailleurs, tu le rappelais à l'instant, on a effectivement quelques propos de Toby Hooper sur Hickshell et en quoi Massacre à la tronçonneuse est né. Pendant le tournage d'Hickshell, qu'on va écouter tout de suite.
I lived with these people about 9 months, not long hair or sandals. I mean, I converted into. I changed into a different person, and the guy in the basement is actually a kind of spirit, and it is about these two planes of existence that comes together, and then finally they merge into in back into nature as all of the beautiful things around them, and I'm talking about the forest, the trees are being cut down. Before this this period, I made. A lot of conservation films about saving old houses, before they put a McDonald's there.
Donc moi en fait j'ai vécu pendant 9 mois avec eux. À l'époque j'avais des cheveux longs, des sandales, ils m'ont un peu converti, j'ai changé, c'était une personne différente. Et on peut dire que cet homme dans le sous-sol, c'est une sorte d'esprit. Et c'est vrai que c'est une histoire avec deux histoires en fait qui avancent et qui finissent par se retrouver. On a une sorte de retour à la nature et on voit dans le film qu'ils sont entourés de décors assez beaux, des forêts, des arbres qui sont coupés. Et en fait, avant ça, moi, j'ai fait beaucoup de films sur la préservation pour sauver des vieilles maisons et d'autres choses qui allaient être détruites pour construire des McDo, par exemple. Et c'était un processus assez compliqué, mais qui finalement avançait tout seul. Et à un moment, notamment, les acteurs se sont mis en grève. Moi, j'avais déjà commencé le tournage, j'avais filmé la partie surréaliste, surnaturelle. Et je me suis dit, bon, ben, s'ils font grève, de toute façon, je pourrais toujours continuer avec ça. Mais c'est vrai qu'en fait, le film, c'est avant tout une manière d'analyser le phénomène de contre-culture de l'époque. Et c'est ça qui est important, en fait.
Toby Hooper.
In the counterculture. And went from Berkeley back down to Austin. That was kind of the sister city to Berkeley. I would say maybe 20% of the people were really involved and did not want to go to Vietnam, and some people were leaving the States and going to Canada, and then there was another aspect of the community, the counterculture, that was all about the style of it and the freedom, breaking free from the conventions that their parents had put on them that were regimented, and it was kind of shaking all those bad memories out of your head, so you could become free and creative. I mean, not just myself, but there were a lot of things happening in cinema then. Well, actually, not a lot. And there are very few true hippie pictures. This may be the only one.
En fait, je crois qu'il y avait une véritable hypocrisie dans la contre-culture qui a démarré à Berkeley et qui allait vers Austin. C'est un peu des villes sœurs d'un point de vue politique. Et je dirais que 20% des gens étaient très impliqués. Et dans le mouvement, ils ne voulaient pas partir au Vietnam. Certains d'entre eux ont quitté les États-Unis pour aller au Canada. Mais il y avait aussi un autre aspect dans ce mouvement, c'était, disons, le mode de vie, la liberté, l'idée de se libérer des conventions imposées par la génération des parents et qui régissaient la vie de tout le monde. On voulait vraiment se débarrasser des mauvais souvenirs, se libérer pour être plus créatif, et pas uniquement moi, en fait. D'autres aussi dans le cinéma, même s'il n'y a pas eu tellement de films hippies, c'est d'ailleurs peut-être le seul. Mais je crois qu'il y a véritablement eu une prise de conscience, même d'un point de vue commercial d'ailleurs, et il y avait aussi une forme de paranoïa du côté par rapport à la police notamment. Dans le film, on voit des scènes de manifestations où la police utilise des gaz lacrymogènes contre les foules, et je dois quand même dire aussi que ces gens, ces hippies, sont devenus des yuppies en fait. Mais moi, en tout cas, ça a été une partie très très importante de ma vie. Ça m'a vraiment libéré des conventions du passé et ça m'a permis d'être beaucoup plus spontanée.
Yeah, the visual grammar. I have from a child, but also started flipping that around, and making jump cuts, and making time, and experimenting with time, and so this film was released, but only played around a few college campuses, and my goal from the beginning of memory was to become a.
Alors effectivement, vous avez parlé de la grammaire visuelle, et cela vous l'avez déjà dans mon enfance. Mais j'ai commencé là à jouer avec un peu, à le décaler, à jouer avec le temps. J'ai commencé donc à faire ceci. Et après la réalisation de ce film, il a seulement été distribué dans quelques petits campus des collèges, pas une très grande distribution. Et je vais vous dire, à l'époque, depuis toujours d'ailleurs, mon objectif, mon but était de devenir directeur de film, mais à Hollywood, j'ose à peine le dire maintenant. Mais là, je me trouvais à Austin, Texas, à peu près à 2500 kilomètres de là. Donc personne, en fait, j'avais reçu aucune attention, j'avais certainement pas reçu, disons, la possibilité de faire un autre film par la suite. J'avais, c'était déjà pas mal, il faut dire, d'avoir réussi à tourner un film et compléter un film en 35 mm, c'est déjà pas mal. Mais enfin, c'est pas ça qui allait me faire visualiser ce film de Austin à Hollywood. Alors, j'avais l'équipement, j'avais les investisseurs, j'étais OK pour refaire encore un petit film, mais c'est pour ça, en fait, je me suis tournée vers ce genre, le genre de l'horreur, parce que je me suis rendue compte qu'il ne fallait pas de vedettes, il ne fallait pas un immense budget, mais ce qu'il fallait, c'est vraiment quelque chose qui choque, quelque chose qui secoue le monde. Et c'est un peu ça que je me suis... C'est pour cette raison que je me suis tournée vers ce genre de films d'horreur.
Écoutez, Julien Sévéon, auteur de Massacre à la tronçonneuse 1974-2017, une odyssée horrifique parue chez Cinexploitation au micro de Culture Prohibée.
Dans ton livre, hein, dont on va rappeler le titre. Alors, le titre est long. Massacre à la tronçonneuse 1974-2017, une odyssée horrifique. Tu évoques la jeunesse de Toby Hooper. Et on sent bien que ça n'a pas dû être simple parce qu'il y avait pas mal de déclarations. Tu dis toi-même, bon, Toby Hooper se contredit, là, il a dit ça. On sent que ça n'a pas été simple de travailler cet aspect-là, de trouver des informations de ce côté-là.
Alors c'est vrai que ça a été, pour moi ça s'est rapidement imposé comme une nécessité de pouvoir parler du travail de Hooper avant Massacre à tronçonneuse. Et puis on se rend compte en fait de quelque chose de très simple, c'est qu'il n'y a rien que ce soit dans la presse américaine, que ce soit dans la presse, enfin la presse, l'édition, hein, que ce soit en matière de magazine, en matière de livres, que ce soit en France, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, il n'y a rien concrètement écrit de factuel, d'historiquement correct concernant la jeunesse de Toby Hooper. Alors, ça vient effectivement du fait que Hooper n'était pas un interlocuteur très qu'on pouvait prendre à la lettre, hein. Et c'est dû aussi au fait qu'il n'y a pas eu de recherche faite par d'autres personnes avant. Et moi, j'ai cherché un petit peu à me plonger dans les quelques 30 ans d'existence de Toby Hooper avant Massacre à tronçonneuse, pour essayer de comprendre d'où il venait, ce qu'il avait fait, évoquer des films qui sont pour la première fois au monde évoqués là, dans ces pages-là. Donc c'est vrai que ça, c'était quand même une véritable joie pour moi en tant que cinéphage, de pouvoir découvrir ces films, de pouvoir en parler pour la première fois, de les mettre en avant, même si bien évidemment ils sont totalement invisibles, ils ont disparu. J'ai essayé... À partir du moment où j'ai réussi à identifier un certain nombre de ces films de jeunesse, j'ai essayé de les retrouver concrètement pour voir s'il y avait moyen potentiellement de les voir. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, on tombait face à un mur. L'université qui a récupéré les archives de Toby Hooper n'a absolument rien en la matière. J'ai essayé de contacter différentes organisations, personnes, et ces films... jusqu'à ce qu'on les retrouve peut-être un jour, en tout cas n'existent plus, tous ces films de jeunesse n'existent plus. Mais ce travail, il était très important, en particulier parce que je pense aussi qu'il permet d'éclairer d'une façon unique le travail qu'il va faire avec Massacre à tronçonneuse. Si on ne comprend pas ces œuvres de jeunesse, enfin le milieu dans lequel il a évolué dans la jeunesse, et notamment certains événements qu'il a vécu, je pense que on ne saisira pas forcément tout le processus créatif et toute la tenue, toute la teneur de Massacre à la tronçonneuse.
D'ailleurs, toi, tu associes Massacre à la tronçonneuse à Peter, Paul and Mary Song Is Love et Eggshells, et tu parles d'une trilogie spirituelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En plus, Peter, Paul and Mary Song Is Love, je pense qu'on est... Il n'y a pas grand monde qui l'a vu. Personnellement, moi, je n'ai pas vu ce film-là.
Non, alors, moi, j'en ai vu que des passages. Hein. Ça fait partie de ces films, pourtant, qui ont énormément circulé à la télé américaine à une époque. C'est un documentaire, donc, sur le trio folk, dont je ne suis pas particulièrement amateur, mais ceci est une autre histoire. Et en fait, ces trois films, tu prends ce documentaire, tu prends Eggshells, qui est un film à la frontière du documentaire de la fiction, et tu prends Massacre à tronçonneuse, ils vont dépeindre, je trouve, d'une façon extrêmement intéressante, même si c'était pas du tout la volonté concrète de Toby Hooper, ils vont dépeindre tout à fait le climat social et politique des États-Unis de l'époque. C'est-à-dire, avec le premier, on se retrouve face à toute cette vague hippie qui est porteuse de rêves, qui est porteuse d'espoir, où on voit dans ces extraits cette jeunesse qui suit le groupe et qui pense que les choses vont changer sur place, qui est porteuse d'un espoir de véritable révolution sociale, que ce soit en termes de racisme, que ce soit en termes plus global de rapports sociaux. Et lorsqu'arrive Eggshells, on est sur la fin, on peut dire, du mouvement hippie, un petit peu, c'est un peu les derniers jours. On se retrouve au sein de cette communauté qui vivote, on voit des scènes de manifestations authentiques que Toby Hooper avait saisies à ce moment-là, mais on sent déjà que le climat n'est pas tout à fait pareil, et lorsqu'arrive Massacre à tronçonneuse, là le mouvement hippie, on peut dire, il est complètement enterré à ce moment-là, et il y a le retour d'une réalité brutale, et voilà, on se retrouve dans les bons vieux États-Unis adeptes de la manière forte. Et pour moi, ces trois films, ils forment quelque chose, un portrait vraiment très, très important, très fort de la société américaine de l'époque.
Mmh. Oui. Tu soulignes, hein, tu viens d'en parler, hein, tu soulignes bien que dans le bouquin, hein, que Toby Hooper, c'est un cinéaste né. En fait, il a toujours voulu faire des films, quoi. C'est vraiment quelque chose, on le voit tout gamin, il y a des photos qui sont dans le livre, il est tout gamin, il est déjà en train de faire des films, enfin, il n'arrête pas, quoi, en fait.
Ah, c'est un véritable, c'est un drogué de la pellicule. C'est quelqu'un qui était vraiment profondément amoureux du cinéma, mais qui avait aussi ce besoin vital de créer, c'est-à-dire que voir des films au bout d'un moment, enfin très rapidement, parce qu'il commence à prendre la caméra alors qu'il a moins de 10 ans, très rapidement le fait d'être un spectateur ne lui suffisait plus. Il a eu ce besoin de créer lui-même, de se mettre derrière la caméra, de faire du cinéma, et c'était quelque chose qui était nécessaire à son équilibre authentiquement. On le voit, il est toujours resté un petit peu à part dans le cadre. Pour moi, voilà, il y a trois réalisateurs qui ont émergé du cinéma horrifique américain des années 60 et 70. C'était George Romero, Wes Craven et puis Toby Hooper. Romero, lui, il est toujours resté indépendant, travaillant en dehors d'Hollywood, mais en réalisant des films quand même tous toujours de très 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 bonne tenue. Wes Craven, c'était le malin du lot. Craven, c'était celui qui a eu le nez creux, qui a su saisir les bonnes opportunités. C'était celui qui avait le meilleur sens économique, financier du groupe. Et puis Toby Hooper, bah, c'était quelqu'un qui était, en termes financiers, en termes économiques, qui a jamais été très très bon, encore moins que Romero, qui a une carrière vraiment en dents de scie, avec des films des fois qui sont à la limite du regardable, et d'autres trucs qui sont très très bons. Moi par exemple, j'aime beaucoup son Mortuary, mais c'était vraiment quelqu'un qui avant tout faisait du cinéma parce qu'il en avait besoin. Ça relevait même pas du comment du rapport gagner sa croûte, il n'en était pas là du tout. Il avait besoin de ça. C'était quelque chose qui était vraiment essentiel pour lui.
D'ailleurs, c'est un cinéaste qui cumule le nombre de projets avortés. Enfin, je ne sais pas si tu peux l'expliquer d'une certaine manière, mais il a cumulé le nombre de films avortés qui ne se sont jamais terminés. Enfin, bon, on a l'impression qu'il a toujours cumulé un peu quelque part les difficultés, quoi, Toby Hooper.
Ouais, il a pas. Ben, on retrouve là-dessus un petit peu quelque chose aussi comme Romero, qui a en fait une quantité de films annoncés, jamais tournés, ou écrits et jamais tournés, phénoménal. Toby Hooper, c'était un peu la même chose, sauf que lui s'est retrouvé beaucoup plus souvent face à des projets qui démarrent et des projets dont il va se retrouver éjecté. Et bah, quelque part, le film le plus emblématique dans ce domaine, c'est Poltergeist, où effectivement il est crédité comme réalisateur. J'en parlerai plus dans le second volume, avec notamment un témoignage, je pense, qui est essentiel là-dessus pour comprendre ou pas son implication. Je mets un petit peu de suspense. Mais voilà, Poltergeist, on sait que Steven Spielberg a quand même mis sacrément les pieds dans le plat pour pouvoir tourner le film. Et c'est ce qui est arrivé, en fait, de nombreuses fois sur des projets à Hollywood, où il commence à tourner et il se retrouve éjecté du projet. Il n'avait pas du tout ce côté, professionnel, mais dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire, tourner un film, pour lui, c'était jamais une question d'organisation factuelle, de budgétiser. Voilà, tout cet aspect professionnel était quelque chose qui l'ennuyait, qu'il avait du mal à gérer. Et bah, ça l'a amené, effectivement, souvent à rencontrer de gros déboires avec la production.
Toby Hooper.
En fait, ma mère, j'ai commencé à naître au cinéma. Ma mère était dans notre théâtre du cinéma quand j'ai commencé à naître. Et donc, On peut dire que j'étais vraiment très près du cinéma déjà avant ma naissance. Notre maison où on habitait et le théâtre que mon père gérait étaient à 6 blocs, à 6 bon, rues, si vous voulez, de la capitale fédérale à Austin. Et mon père, donc la capitale du Texas, et mon père qui était hôtelier, il avait des liens très proches avec les hommes politiques à Austin. Et d'ailleurs, un de ses amis, c'était quelqu'un qui allait devenir par la suite président des États-Unis, à savoir Lyndon Johnson. Et c'est pour cela que j'ai connu, j'étais déjà en marge, si vous voulez, des fêtes politiques dans notre pays.
There was that part of my world that was, say, 5%. And the rest of it was, they were out, my parents, in a social world. And there were 4 movie theaters around the hotel. And so that became my babysitter and my reality. And I preferred being there. And watching things like everything, but Tom and Jerry cartoons, where Tom can.
En fait, je dirais à peu près 50% de mon existence était pris par le cinéma. En fait, mes parents étaient pris dans le cinéma. Ils avaient donc ce cinéma, et puis tout le reste est passé dans le social. Et il y avait 4 cinémas près de nous, et donc on peut dire que c'était vraiment mon babysitter, les cinémas, et je regardais beaucoup de films, et d'ailleurs c'est ce que je préférais. On peut dire presque que j'ai appris le langage du cinéma avant d'apprendre à parler. Et, par exemple, si jamais mes parents se disputaient, je faisais comme au cinéma. Vous savez, quand il y a une dispute dans un film, on s'approche de plus en plus. C'est comme ça que j'ai appris le cinéma. Et j'ai oublié de dire avant que parmi les films que je regardais, il y avait par exemple les Tom and Jerry, où parfois le chat, bon, on lui écrasait sa tête, mais après il revenait tout de suite entier dans la scène qui suivait. J'ai oublié de dire ça la dernière fois. Maintenant, après le divorce de mes parents, j'habitais surtout chez ma mère, et elle me disait, ah, tous ces films, tu vas devenir malade, tu vas perdre la tête, tu ne pourras plus penser. Alors, mais en fait, moi je tournais les films, j'avais donc mon handheld à la main, comme ça, le 8 mm, et donc c'était vraiment tout ce qui me passionnait. Et j'étais vraiment passionnée par ce genre. C'est vrai que parfois, le genre, j'étais effrayée par certains films, mais en fait, il y avait une affectivité, j'étais vraiment pris par l'émotion en regardant ces films, tels que parfois j'oubliais mes propres pensées, j'oubliais ma propre existence. J'étais vraiment prise par ces films. Certains étaient bons, et oui, il y en avait la plupart d'autres qui étaient vraiment pas très bons, plutôt mauvais.
Some of the films were good, and some were mostly. Sure.
Écoutez Maxime Lachaud, auteur de Redneck Movies, Ruralité et Dégénérescence dans le cinéma américain, paru chez Rouge Profond, au micro de Culture Prohibée.
Avec Toby Hooper et notamment de cet aspect-là du film. Et pour lui, bon, il a dit souvent, hein, il a dit que pour lui, il y avait tout un contexte qui a fait naître ce film. Bon, bien sûr, il y a cette histoire de Ed Gein, tout ça, mais il cite souvent, alors ça se voit pas forcément dans le film, mais le scandale du Watergate. Parce que pour lui, c'était vraiment une époque de doute quant à l'avenir. Il y avait des pots de vin de partout, de la corruption de partout. On ne pouvait plus croire en personne. Donc c'était une période assez paranoïaque. Et pour lui, ce scandale du Watergate cristallisait un peu l'état d'esprit de l'époque. Ensuite, il y a ce qu'on a appelé le Sun Belt. Alors ça, ça a été un peu l'industrialisation sauvage du Sud. C'est-à-dire que bon, le Sud avait toujours été réputé comme invivable avec sa chaleur. Donc tout le monde quittait le Sud et tout d'un coup, les climatiseurs arrivent. Alors l'air conditionné. Alors ça peut sembler stupide comme ça, mais d'ailleurs à un moment il me dit, parce qu'il était affreux sur le tournage, Toby Hooper, lui il avait un climatiseur dans sa chambre mais les autres n'en avaient pas. Mais donc c'était une époque où on voulait faire de Dallas, de Houston, et d'ailleurs ils sont arrivés, hein, on voulait en faire les nouveaux Los Angeles, avec voilà, Exxon, Texaco, les crosses, le pétrole, tout ça. Enfin, Dallas, quoi, là, comme la série. Et en parallèle, il y avait ces grosses villes monstrueuses. Et à côté, on prenait la voiture, on faisait quelques kilomètres et on se retrouvait dans une campagne sudiste, mais avec encore les maisons en bois délabrées, comme au 19e siècle, sans signe de modernité ni rien. Et donc il y avait ce contraste entre l'urbain et le rural qu'on trouve dans tous les films de Redneck. Il était vraiment flagrant dans le Texas de cette époque-là.
On va écouter Toby Hooper qui nous parle de ses influences, ce qui a nourri son cinéma et ce qui a nourri Massacre à la tronçonneuse.
Singing in the rain. The thing from another world. There are also filmmakers like Michael Curtiz that had a great range of making different kinds of films, and I liked the swashbuckling.
Alors, en fait, c'est vrai, il y avait des films like Singing in the Rain, and bring a thing from another world, puis les films quant à Michel Curtis.
Then I, well, I'll jump a decade ahead of you, and then we can go back.
Je vais prendre un peu d'avance avant de revenir en arrière, mais moi j'ai été aussi inspirée par Fellini, Antonioni, parce que à Austin on trouve l'université du Texas, et il y a toute une rue avec des cinémas dédiés au cinéma européen. Et en fait, c'est le genre de film qu'il montrait là-bas. Et j'ai compris que c'était un type de drame différent, où l'attachement émotionnel avait beaucoup d'importance. Et c'est ce qui m'a convaincue que je devais faire ça, je devais en faire partie, que je pouvais faire aussi sortir les gens d'eux-mêmes comme moi, le cinéma me faisait sortir de moi. Peut-être pour 15 secondes, une minute, je me demandais combien ce moment pouvait durer, combien de temps cette interaction avec le cinéma pouvait durer. Voilà.
I really knew two things, and that was cinema, and the other thing was war.
If I can make you
because of living in such a politically charged place, and these things started getting mixed into
how long can you sustain? Donc, pour revenir une décennie en arrière. Moi, je connaissais uniquement deux choses, en fait, le cinéma et la guerre, parce qu'on vivait dans une période de véritable tension politique, et donc ces deux éléments se sont en fait mélangés.
Yeah, well, that's Texas for you.
C'est ça, le Texas.
And, yeah, I mean, and those times, the rednecks were driving their pickup trucks. They would have like three shotguns in the rack behind them. You could board an airplane if you were going to a shooting convention and take your rifles and shotguns on the plane, or you know, or sidearms, pistols. This film, as it when I first saw it. It was the wide shot. It was the wide shot of it, and when digital advanced, that's when we. And I was. I'm not sure. Like Bert. And I was already shooting films for a company that hired me to shoot political things in and around Austin, and it was called Movie Tone News, but they supplied Hundley Brinkley, the CBS nightly news, and I was sent to Dallas. After this happened, to go on the mall, and I'd been on this mall many times, and photograph things, and I was outside.
En fait, on parle d'une époque où les rednecks, les habitants du sud des États-Unis, se trimballaient dans leurs gros camions avec des fusils derrière eux. Si on se rendait à une convention d'armes à feu dans l'avion, on pouvait prendre des fusils, toutes sortes d'armes à feu, il n'y avait aucun problème. Moi, ce film, à l'époque, je l'ai vu en plan large. Et c'est qu'après, avec le numérique, on a eu des plans plus rapprochés, on voyait donc la tête exploser. J'avais 20 ans à l'époque, je tournais déjà des films pour une boîte qui me demandait de filmer certains événements politiques. Ça s'appelait Loop. Et du coup, les vidéos étaient notamment envoyées à la chaîne CBS pour les informations. Et donc, on m'a envoyé à Dallas après cet événement. Et j'étais dans un centre commercial où j'étais déjà allée pour prendre des photos. Et j'étais aussi devant le tribunal lorsque Loubi a tiré sur Oswald. J'étais avec un de mes caméramans et les services secrets nous ont poussé en fait contre ce qu'il a dit lorsqu'il a entendu la nouvelle. Mon Dieu, comme ça, ils verront qu'au Texas, on est des durs à cuire et qu'il ne faut pas nous chercher, et voilà, des conneries de ce genre.
Alors, tu le disais à l'instant, hein, tu as eu accès à... Alors, tu t'es penché sur un nombre de documents, d'interviews. Bon, ça n'a pas été simple, parce que des documents sur le tournage ou la pré-production, c'est très difficile à trouver, voire il n'y en a pas du tout. Tu le dis bien dans le livre. Mais par contre, dans ce que tu as pu trouver comme expression de Hooper sur ses influences, tu constates que Hooper ne cesse, au fil du temps, de revendiquer des influences différentes pour son film. Comment est-ce que tu expliques cela, toi ?
Le Massacre à la tronçonneuse est devenu un film
Julien Cévéon
qui a dépassé en fait tous les espoirs de Toby Hooper et de toute l'équipe. Et puis il a commencé à être analysé, il a commencé à être reconnu dans des milieux artistiques ou cinématographiques dans lesquels ce genre de production auparavant n'était jamais évoqué. Et Toby Hooper s'est retrouvé un petit peu, à mon avis, bloqué face à cette intellectualisation de son film, et il s'est retrouvé un petit peu poussé à expliquer la jeunesse du film, à expliquer ses influences, et c'est comme ça qu'il en est venu à créer des filiations avec des films, avec des peintures qui sont totalement fictives. Là-dessus, c'est ce que j'explique dans le film, c'est quelque chose qui est venu extrêmement tardivement, sur lesquels, grosso modo, en fait, il n'en a jamais parlé de l'époque, ce que j'appelle la première vague, c'est-à-dire entre la sortie du film 74 et 86, la sortie du deuxième Massacre à tronçonneuse. C'est des influences qu'il n'évoque absolument pas. Il ne parle pas de lien avec telle peinture ou avec tel autre film. Il parle de son amour du cinéma. Il est capable de parler d'autres films. Mais voilà, c'est quelque chose qui va se développer beaucoup plus tardivement, en particulier à la fin des années 90 et des années 2000, et tout particulièrement le remake, le fameux remake de 2003, où là, la presse revient vers lui, lui pose des questions, et là, tout d'un coup, Hooper va se mettre à imaginer beaucoup de choses, on va dire.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec John Ferré, dit le libraire fou, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.